Le journal de la rédaction présenté par Alexandra Dubouchereau. Bonjour Alexandra.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, cette visite surprise et éclair de Donald Trump en Irak hier, en mauvaise posture aux États-Unis. Le président américain avait plusieurs messages à faire passer, les précisions de Grégory Phillips dès le début de ce journal.
Un non-lieu sans surprise dans l'attentat de 1994 au Rwanda et surtout une décision française, autant judiciaire que politique, nous dira le spécialiste du Rwanda, André Guichawa.
À l'étranger encore, en Tunisie, désespoir et espoir d'une population contre la vie chère. On a joint un habitant de Kasseri qui manifeste depuis lundi. La trêve fragile au Yémen. Et ce matin, on s'intéresse à la question du déminage, enjeu crucial pour la population, nous dira Omar Waman.
Et puis en France, Peter Sherif a été déféré ce matin à Paris. Les enquêteurs ont plusieurs fils à tirer car le profil et le parcours de ce djihadiste comportent de nombreuses zones d'ombre.
Enfin, nous étions au procès de Gilets jaunes à Toulouse après les dégradations en marge des manifestations. Et à 8h15, le billet politique après les Gilets jaunes, Frédéric Saïd s'interroge sur les invisibles de la République. Oui, il y a bien un pilote dans l'avion. C'est le message qu'a voulu faire passer Donald Trump hier en Irak. Le président américain et sa femme ont rendu une visite surprise aux troupes américaines basées dans le pays. Un moyen aussi de justifier sa décision de retirer les troupes américaines en Syrie. Grégory Phillips.
Sur la base aérienne d'Al-Assad, accueil de rockstar pour le président américain, comme en témoigne cette vidéo diffusée par la Maison Blanche. Donald Trump est acclamé par des centaines de soldats en uniforme. La visite dure 3 heures, poignée de main, selfie avec les troupes et un message de félicitations délivré par le président des États-Unis. L'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est pour vous remercier. Merci d'avoir éliminé le califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Il y a 2 ans, quand je suis devenu président, ce groupe dominait la région. Aujourd'hui, il ne domine plus tant que ça. La visite, programmée depuis 6 semaines, n'avait pas été annoncée pour des raisons de sécurité. Et après avoir débarqué d'Air Force One, Donald Trump confie à une poignée de journalistes « Quand j'ai entendu tout ce par quoi il fallait passer pour arriver ici, je n'étais pas inquiet pour moi, mais pour la première dame qui m'accompagne. Si vous aviez vu tout ce qu'on a subi avant d'atterrir, l'avion plongé dans le noir, tous les hublots fermés, aucune lumière nulle part, le noir complet. » Cette visite éclair de Trump à Bagdad intervient 1 semaine après l'annonce du retrait américain de Syrie et la démission du secrétaire à la Défense, Mattis. Le président est venu en Irak pour faire le service après-vente de cette décision et dire que les États-Unis ne pourraient pas rester beaucoup plus longtemps le gendarme du monde.
Grégory Phillips, envoyé spécial permanent aux États-Unis pour France Culture. Donald Trump espère revenir à Washington en position de force après cette visite en Irak. Washington, où les négociations sur le budget fédéral doivent reprendre ce jeudi au Congrès après 5 jours de shutdown, c'est-à-dire une paralysie des administrations faute de financement.
Et puis 7 proches du président rwandais Paul Kagame sortent des mailles de la justice française.
Hier, les 2 juges d'instruction ont rendu un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président Juvénal Habyarimana en 1994, cet attentat avait été l'élément déclencheur du génocide rwandais. 800 000 personnes, en majorité Tutsi, tuées en 100 jours. Il a aussi empoisonné les relations entre la France et le Rwanda depuis plus de 10 ans. La France s'en est emparée car l'avion présidentiel qui a été abattu en 1994 était composé d'un équipage français. Les juges ont donc conclu à l'absence de charges suffisantes suivant les réquisitions du procureur de la République le 10 octobre dernier. Et ce n'est pas une surprise pour André Guichawa, l'un des principaux expert sur le Rwanda, sa décision étant en partie politique selon lui.
Le 12 octobre dernier, le parquet de Paris avait lui-même fait connaître sa décision de non-lieu la veille de l'élection de la candidate rwandaise à la tête de l'Agence de la francophonie. Donc je crois qu'on peut dire qu'il s'agit explicitement de décisions autant judiciaires que politiques, inspirées par la volonté de mettre fin à une procédure qui affecte les relations franco-rwandaises et plus largement les relations de la France avec l'Afrique depuis désormais 20 ans. Le réalisme s'est imposé. Pour autant, le dossier n'est pas clos. Personne ne pourra empêcher les stratégies du soupçon de perdurer vis-à-vis des 2 camps et l'actuel régime rwandais présentera cet acquittement comme désignant le camp vaincu, c'est-à-dire le régime Habyarimana comme étant à l'origine de cet attentat. La justice sera passée, mais elle n'aura pas dit le vrai et elle ne sort pas grandie de ce qui a été une longue épreuve pour tous.
André Guichawa, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec Franck Madvon pour France Culture. En Tunisie, le gouvernement hausse le ton alors que depuis le début de la semaine, des heurts éclatent presque tous les soirs dans le pays entre forces de l'ordre et manifestants contre la vie chère et le marasme économique. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Fourati a assuré hier qu'il s'agissait de mouvements qui veulent porter atteinte aux biens publics et privés. Pas sûr que cela calme la colère dont l'épicentre se trouve à Kasserine, dans l'ouest du pays. C'est dans cette ville qu'un journaliste s'est immolé par le feu lundi en signe de protestation. Fiona Mogadam, vous avez pu joindre un enseignant mobilisé sur place.
Nabil Ghassoumi est un instituteur de 38 ans. Il a toujours vécu à Kasserine et ces derniers jours, lui aussi est sorti dans la rue exprimer son mécontentement.
Pour être honnête, rien ne va ici à Kasserine. Le niveau social, le dinar est... Et en bas niveau, notre vie quotidienne est aussi un très bas niveau. Même ceux qui ont un job, qui ont un boulot, tout le monde souffre ici.
Des salaires qui ne suivent pas le cours de l'inflation proche de 8% et qui n'augmentent pas suffisamment, explique l'instituteur. Le taux de chômage est de 15% et à Kasserine, ville de l'une des régions les plus pauvres du pays, les habitants se sentent tout simplement abandonnés.
Il n'y a pas d'investissement ici, il n'y a pas de postes pour les demandes d'emploi. Pratiquement, il n'y a pas d'État ici. On n'a pas avancé depuis la Révolution, on a reculé.
Ces manifestations sont régulières en Tunisie à l'approche du 14 janvier, date anniversaire de la Révolution de 2011, et notamment à Kasserine, d'où est parti le mouvement il y a 8 ans. Mais Nabil Ghassoumi espère que cette année, la contestation va perdurer pour obtenir de réelles améliorations du niveau de vie.
Et depuis le début du mouvement, cette semaine, 13 personnes ont été interpellées. La trêve au Yémen peut-elle tenir ? Conclue le 18 décembre sous l'égide de l'ONU, elle est fragilisée par la multiplication des affrontements sporadiques à Hodeïda notamment. C'est ici, dans cette ville portuaire stratégique, que des rebelles houthis et des représentants du gouvernement se sont retrouvés hier pour discuter. L'une des clauses de cette trêve concerne le déminage, une urgence dans ce pays où les mines font de nombreuses victimes, Omar Waman.
Depuis le début de la guerre au Yémen, il y a bientôt 4 ans, des dizaines de milliers de mines antipersonnelles ont été posées à travers le pays. Thierry Durand, de Médecins sans frontières, de retour de Moka, au sud de la ville d'Hodeïda.
Toute la zone a été minée par les Houthis, tout autour des villages, des petites villes, les axes secondaires. Il y a évidemment beaucoup de mines. Et on a toutes les semaines des victimes d'explosions de mines sur des véhicules, des bus, des choses comme ça. Et c'est dramatique, les blessures sont dramatiques. Plus de 15 000 personnes ont été opérées chez nous.
Dont 80% sont des civils, parmi eux de très nombreux enfants. Bernard Leménager, chirurgien également de retour du Yémen.
Les mines touchent effectivement les enfants, soit parce qu'ils jouent, soit parce qu'ils se promènent et puis qu'ils vont partout. Ça peut faire des gros dégâts, donc des mains arrachées. Ça fait des dégâts vraiment épouvantables.
Et pour ces enfants, les conséquences sont très souvent irréversibles. Caroline Seguin, chef de mission à Hodeïda, de passage à Paris.
Pour l'instant, nous, on le voit sur les zones au sud d'Hodeïda. C'est des afflux de blessés d'enfants. On est souvent obligé de les amputer. C'est des blessures à vie.
Le fragile accord de paix conclu en Suède au début du mois prévoit d'importantes opérations de déminage. La France fait partie des pays qui ont proposé d'y participer.
Omar Waman pour France Culture. Un policier a été blessé cette nuit à Athènes par un engin explosif devant une église dans le centre de la capitale, dans un quartier chic. Le policier a été hospitalisé. La police a bouclé le secteur. Pas d'autres informations pour l'instant. Vinci Airport va devenir actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick. C'est ce qu'annonce sa maison mère Vinci ce matin. Il s'agit du rachat de 50,01% des parts de ce deuxième aéroport britannique. L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2019 et cela portera à 46 aéroports le réseau du groupe français de BTP et de concessions.
8h presque 9 minutes sur France Culture, la suite du journal avec vous Alexandra Dubouchon et Peter Chérif qui a été déféré ce matin au parquet de Paris.
Le djihadiste français arrêté à Djibouti la semaine dernière et extradé dimanche vers la France va exécuter la peine de 5 années de prison qui avait été prononcée à son encontre avant qu'il ne prenne la fuite en 2011. C'est donc la fin de 8 ans de cavale pour cet homme de 36 ans, proche des frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo, et c'est le début d'un nouveau parcours judiciaire, Laurent Doulsan.
Peter Chérif risque une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Une qualification en lien avec son séjour au Yémen, après sa fuite de France en 2011, mais qui ne visera pas expressément son rôle éventuel dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Son implication directe en tant que donneur d'ordre dans la tuerie de janvier 2015 reste en effet à prouver. Pour tenter d'établir éventuellement sa responsabilité, les enquêteurs ont deux fils à tirer, l'amitié ancienne de Chérif avec les frères Kouachi, les auteurs de l'attentat, et le séjour au Yémen de l'un de ses frères, au cours duquel aurait pu être évoqué un projet d'attaque contre Charlie Hebdo. Dans tous les cas, Peter Sherif ne sera pas libre dans un proche avenir. Il lui reste à purger au minimum 5 ans de prison. Condamnation prononcée contre lui en 2011, alors qu'il ne s'était pas présenté au dernier jour de son procès.
Un gilet jaune condamné hier à 1 an de prison ferme par le tribunal de Valence dans la Drôme. 4 gilets jaunes comparaissaient pour violence contre la police en marge de la manifestation du 8 décembre dernier. Le commissaire divisionnaire a notamment été roué de coups ce jour-là. Malgré des casiers vierges, le tribunal les a condamnés donc à des peines de 9 à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Peine moins sévère à Toulouse où plusieurs gilets jaunes comparaissaient pour violence ou dégradation hier après les manifestations du week-end dernier. Suzanne Chaudjahi a suivi l'une de ses audiences pour France Culture.
Ils s'appellent Yanis et Rémi, ils ont 27 ans. Le premier est poursuivi pour avoir jeté des fumigènes en direction des policiers et surtout pour son sac à dos rempli de tout un tas d'objets. 2 barres métalliques, un lance-pierre, une cagoule, des bombes de peinture, une paire de ciseaux, un chalumeau, un marteau. Tout cet attirail peut blesser, fait remarquer la procureure. Le prévenu, ancien pompier de Paris, répond « Je ne voulais blesser personne, seulement faire du grabuge, parce qu'il en faut pour se faire entendre. » Alors le président du tribunal le questionne sur le fumigène qu'il a lancé sur les forces de l'ordre. Je ne l'ai pas lancé, rectifie-t-il. Je l'ai fait rouler pour que la fumée leur brouille la vue. Yanis a un casier judiciaire vierge, comme Rémi, un demandeur d'emploi qui n'a jamais été condamné. Il est poursuivi pour avoir lancé une bouteille en verre sur les forces de l'ordre et pour avoir participé à l'installation d'une barricade. Étiez-vous venu pour en découdre ? Lui demande le président. Non, répond Rémi. J'ai honte de ce que j'ai fait. Rémi est condamné à 1 mois de prison ferme, Yanis à 3 mois et ils ont tous les 2 interdiction de manifester en Haute-Garonne pendant 2 ans.
Et de leur côté, les gilets jaunes, eux aussi, veulent répondre. Hier, plusieurs figures du mouvement, dont Priscilla Ludowski, les appellent à faire valoir leurs droits en justice, dénonçant des atteintes graves à la dignité commises par les forces de l'ordre. 2 syndicats de la police scientifique appellent finalement à la grève dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la nuit très symbolique de la Saint-Sylvestre. L'intersyndicale avait d'abord lancé un préavis de grève illimité à partir d'hier 26 décembre, mais la rencontre programmée avec le gouvernement le 8 janvier prochain est un peu trop tardive à son goût. Seul le syndicat indépendant SNIPAT maintient la grève aujourd'hui. Les agents de la police scientifique réclament une amélioration de leur statut. Plusieurs changements attendus en ce 1er janvier 2019, des changements du côté de l'emploi et de la formation, notamment avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel adoptée cet automne. Et ces premiers changements concrets, ils concernent la manière dont les droits à la formation pourront être acquis et utilisés. Explication avec Catherine Pétillon.
Première nouveauté, les changements apportés au compte personnel de formation, le CPF, c'est ce compte qui depuis 2014 rassemble les droits individuels des salariés et demandeurs d'emploi. À partir du 1er janvier, il ne sera plus abondé en heures de formation comme c'est le cas actuellement, mais libellé en euros. 500 euros par an seront crédités à chacun, 800 pour les salariés non qualifiés, avec des plafonds de 5 000 et 8 000 euros. Les heures encore sur votre compte et qui n'ont pas été utilisées seront automatiquement converties avec un taux de 15 euros par heure. Ce CPF, nouvelle version, est un changement de taille. Les partenaires sociaux y étaient vivement opposés, mais l'exécutif a préféré l'imposer. Il juge ce fonctionnement plus lisible dès lors qu'il ne sera plus nécessaire de passer par des intermédiaires, en l'occurrence les organismes collecteurs, les OPCA. À l'avenir, chacun pourra, devra même trouver, choisir, payer sa formation par lui-même en passant par une application. La Caisse des dépôts et consignations travaille actuellement à son élaboration. Sa livraison a été reportée à l'automne 2019. Pour les formations, tout l'enjeu sera d'être bien référencé sur cette appli. Du côté des personnes qui souhaitent se former, il faudra savoir repérer la bonne formation et être agile en numérique. Autre nouveauté, du côté des reconversions professionnelles, le CIF, congé individuel de formation, disparaît. Il cède sa place au CPF de transition. Pour se repérer dans toutes ces démarches, les personnes qui le souhaitent pourront en théorie être accompagnées par un conseil en évolution professionnelle gratuit.
Catherine Pétillon pour France Culture. Et puis, près de 1600 km en 54 jours, en solo et sans assistance, du nord au sud de l'Antarctique. Voilà l'exploit que vient de réaliser un Américain de 33 ans, Colin O'Brady, est le premier à avoir traversé ces terres glacées dans ces conditions. Pendant son aventure, il était traqué par GPS. Le temps de ce jeudi un peu plus doux, sans doute en France, un ciel légèrement voilé sur tout le territoire, voire couvert sur la côte atlantique. Grand soleil, en revanche, ce matin sur les Pyrénées-Atlantiques et des Vosges au Jura. les températures minimales, moins 7 degrés du sud-est au centre du pays jusqu'aux frontières nord, aux températures plus douces sur la côte atlantique avec 5 à 9 degrés et en bord de la Méditerranée 10 degrés. L'après-midi, les températures sont comprises entre 3 et 15 degrés du nord-est au Piémont pyrénéen.